je vous ai confié, donc il nous manque un coup et demi. Je vous ai confié un livret. Du coup, je vais le prendre celui-ci, qui est le livret du diocèse de Paris, qui a été fait en collaboration avec le Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le modérateur de la Curie diocésaine à Paris, et qui est un carnet un peu fort. Enfin, vous voyez, à la page 127, à la fin. Donc, vous voyez, c'est, comment dire, le cardinal de... C'est assez parisien comme parcours. Mais je vous laisse assez libre, parce que si on suit la méthode, comment dire, de manière sérieuse, ça vous demande justement un partage assez important, mais je vous y invite. Donc, vous voyez que dans les premières pages, on vous donne un peu une méthode, c'est-à-dire vous vous retrouvez tous les deux et vous prenez, c'est une heure par semaine, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas une heure tous les jours, certains le font tous les jours, mais voilà, il faut, comment dire, c'est un peu, c'est pour la compétition, n'est-ce pas, c'est une heure par semaine. C'est trouver le calme, c'est-à-dire que vous mettez vos téléphones sur off. Voilà. Ensuite, vous avez une parole de Dieu que vous méditez. Ensuite, le troisième temps, alors vous avez des conseils pour un peu interroger cet passage de la Bible. Ensuite, eh bien, vous parlez l'un à l'autre de ce que vous avez lu, et à la fin vous pouvez faire une petite prière. Et nous avons déjà fait ensemble la méditation sur Dieu créateur, page 17, voyez, quand nous avons développé quelque chose qui n'est pas forcément évident pour certains, d'autres évident parce que vous êtes, y en a qui sont très pratiquants, d'autres un peu moins. Et donc ce récit de la Genèse, page 18, que j'ai beaucoup développé sur l'existence surtout de Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu créateur, un Dieu fantaisiste, voilà, qui aime décorer et faire des belles choses. Là, il y avait encore aujourd'hui, voilà, on est à 100 milliards de galaxies dans le cosmos et 100 milliards de planètes, 100 milliards de planètes par galaxie. Enfin, c'est un nombre des dons incroyable, mais il concentre son amour dans les êtres spirituels. Et donc vous avez ce dont je vous ai déjà parlé, la Genèse. Donc cela, vous pouvez le reprendre entre vous, mais ça on l'a déjà fait. Voyez, homme et femme, il nous créa. Nous avons déjà réfléchi sur cela. Donc c'est page 18, à son image il nous créa. Donc tiré d'une nature qui vient aussi du monde matériel, hein, je vous avais parlé des poissons, des oiseaux du ciel, des bestiaux, tout ça, mais on en parle, ça y est, c'est fait. Page 20, c'est homme et femme, c'est la différence sexuelle qu'on verra plus tard, mais que, comment dire, qui ici est interrogée dans le sens de la création. Ensuite, c'est dans la vie quotidienne que nous penserons ensuite la relation entre le futur, entre l'homme et la femme, mais là c'est le côté création, mais ça on l'a vu, hein, on a déjà médité là-dessus, enfin je vous ai invité à méditer, mais Ce qui est bien, c'est que dans ce livret, vous avez le texte de la parole de Dieu, que vous pouvez, vous-même, puisque vous êtes quand même à quelques mois de votre mariage, nous, on vous donne, il y a deux sessions chez nous, mais c'est en été en général qu'on se marie. Donc, à partir de décembre, où on vous lâchera un peu, sauf que vous verrez quand même le prêtre qui célèbre pour préparer les textes de votre mariage ou pour préparer le livret. Donc on ne vous lâchera pas complètement entre décembre et votre mariage. Il y aura aussi le dossier administratif où on vous demandera les actes de naissance, les lieux et dates de baptême. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc, voyez-vous, cette première méditation, nous l'avons faite, et je vous invite à la faire vous-même, mais chez vous, quand vous vous rencontrez, ensemble, à un moment de rencontre. Ce que Dieu veut pour notre alliance, nous allons le voir, indirectement aujourd'hui. Alors, mon engagement est pour toute la vie, nous voulons des enfants, ça nous le verrons dans un... plus tard. Je vous ai parlé plutôt du péché originel, page 40, et de la promesse du salut. Je pense que chronologiquement, vous voyez, je préfère passer de la création au péché originel et la promesse du salut pour... vous voyez, je passe, moi, de page 16 à 24 à page 40, on l'a vu ensemble, le péché originel, la promesse du salut. Page 48, Jésus nous rétablit dans l'alliance, ça nous avons vu dans la troisième temps. Voyez. Et vous pourrez relire cette parole de Dieu ensemble, c'est fait pour ça. Page 60, vous verrez que c'est pour nous la séance sur le sacrement. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est que moi je vous inviterai à le faire. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Voilà. Vous voyez. Je vous inviterai à en suivre les étapes ensemble, voyez. Nous ne le ferons pas ici, c'est fait pour que vous puissiez approfondir chez vous, voyez. C'est la raison pour laquelle je ne tarde pas plus pour faire notre troisième rencontre, voyez. Là, où je vais insister sur maintenant que je vous ai parlé de la création, que je vous ai parlé de la promesse du Sauveur, d'un peu d'histoire sainte, que je vous ai parlé du signe particulier de Jésus comme époux de la nature humaine. Et annoncé par Jean-Baptiste comme l'époux, justement, de cette nature humaine, que je vous ai évoqué son sacrifice qui est un don pour sauver, un don de vie. Vous voyez, il supporte ce qu'il y a de noir et de mauvais. Pour le détruire et pour l'anéantir, voyez, à l'image de ces pauvres victimes et de la souffrance des familles de vendredi soir, voyez, Jésus prend sur lui toute cette haine humaine et dans sa résurrection, il nous donne l'espérance. Et c'est cette alliance qui était dans l'agneau pascal, dans ce passage du peuple hébreu du pays d'Égypte à la libération et à la Terre Sainte, ce passage dans l'eau, ce passage dans les eaux on est plongé dans l'eau qui nous purifie, qui nous lave, mais en même temps qui nous font passer d'une vie d'esclavage, de dureté, à une vie de libération et d'espérance. C'est une alliance. Et Dieu, notre Père, nous propose cette alliance par le signe de son Fils, qui est l'agneau pascal qui avait été offert par le peuple dans l'espérance, qui a été offert pendant plusieurs siècles au temple de Jérusalem, et qui est le signe, justement, lorsque Jésus est au mariage de Cana, et la Vierge Marie lui demande, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Eh bien, c'est le signe d'une nouvelle alliance dans sa victoire de la croix dans le matin de Pâques. Et donc, l'alliance est proposée dans une liberté. Ce qui fait que maintenant, ce soir, nous allons maintenant méditer parmi les fondamentaux de l'amour mutuel du mariage, qu'on appelle des piliers. C'est une expression qui était consacrée avec le temps. Les piliers du mariage qui sont la liberté, l'unité, la fidélité et l'ouverture à la vie. Mais aujourd'hui, l'ouverture à la vie, nous le verrons plus tard. J'espère qu'on a eu un accord de principe pour un témoignage d'une conseillère conjugale qui va venir. Alors, j'espère lui proposer. Pour l'instant, elle a eu une certaine épreuve, mais elle a dit oui, qu'elle essaierait de venir. Nous la ferons venir, j'espère, le 10 décembre. Nous verrons, nous déplacerons suivant. Mais aujourd'hui, voyez-vous, Dieu est un Père. Il nous donne sa parole éternelle, son Fils. Et librement, il donne sa vie pour notre bonheur et notre espérance, pour vaincre tout ce qui est mauvais ou négatif, pour faire briller tout ce qui est beau et positif dans nos vies, voyez, pour surmonter et pour atteindre toujours ce qu'il y a de beau, de vrai, et ce don doit être libre. Voyez. Alors d'où toute cette série de questions signifie cette liberté ce soir, et qui dit liberté d'un engagement, d'un don mutuel. Dieu n'est pas obligé, c'est librement que Jésus se donne à l'humanité pour la rendre heureuse, pour la tirer vers le haut, pour lui redonner cette espérance et ce souffle. Et nous-mêmes, dans l'union matrimoniale, on a ce don mutuel. Au lieu de vivre pour soi, il y a un choix libre de se donner. Il faut qu'il soit totalement libre. Voilà. C'est une condition du mariage, c'est que c'est la profonde sincérité de notre don. Oui. Et donc, si vous étiez si vous sentiez une contrainte ou un malaise, voyez, vous devriez en parler. J'ai pas l'impression qu'aucun de vous. Mais ça peut arriver. Il y a parfois des pressions familiales ou autres. Hein, voilà. C'est la raison pour laquelle moi, donc dans un premier temps, je vais vous lire ces questions pour que ça résonne en vous. Et puis après, vous pourrez échanger. Et puis je reviendrai. Et donc dans ces conditions de liberté, du don de soi, comme Dieu crée librement et aime librement et sauve librement, vous êtes vous-même l'un à l'autre un salut. Vous avez apporté du bonheur l'un à l'autre. Et pour cela, c'est pas un don qui est se supprimer sa personnalité ou son être. On donne son être, mais on ne l'anéantit pas. De deux, on fait un, mais sans qu'il y ait une diminution ou une soumission. C'est une unité. Voyez. Mais on reste soi-même tout en, non pas abdiquant, hein, mais c'est En essayant, il n'y a pas d'autre mot, hein, on est complémentaires. Comme deux pièces d'un puzzle, vous voyez, qui ne ferait plus qu'un rond. Mais si on regarde bien ce puzzle de deux pièces, on voit quand même qu'il y a un petit parcours, n'est-ce pas, ça a été découpé, mais les deux pièces s'unissent. On reste soi-même et on se donne l'un à l'autre. D'où ces questions, hein, qui sont classiques, hein, ce sont des préparations au mariage qui se font par exemple à Notre-Dame d'Auteuil, hein, c'est assez classique sur Paris. Est-ce que j'ose être moi-même dans mon couple? Est-ce que je ne joue pas un personnage pour me... Vous voyez, j'ai eu ma vie de célibataire, tout ça, et puis j'ai peur d'être seul, de rester seul, et je me marie pour pas être seul. Et du coup, pour me marier, je m'invente un peu et au lieu de partir de ce que je suis. Enfin, je ne vous donne pas les solutions des questions, mais un peu. Mais ensuite, c'est à vous de vous dire, tiens. Et ce n'est pas ce soir que vous allez répondre. Je vous ai dit que je n'aimais pas trop c'est un manque de pudeur de raconter toute sa vie devant les autres, mais voilà, que ça résonne en vous. Est-ce que je me sens libre du regard des autres? Mais ça, habituellement, dans votre vie. Vous voyez, la liberté fondamentale, c'est la liberté aussi de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. C'est est-ce que je réussis à avoir une maturité, en fait. Ce qu'il y a derrière cette liberté, c'est la maturité. Est-ce que je fais ça par rapport à mes parents, par rapport à l'idée que j'ai de moi, ou est-ce qu'à un moment donné, je lâche prise pour être vrai? Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle, par exemple? Ou alors, est-ce que je disparais pour uniquement être avec l'autre et faire plaisir à l'autre et lui envoyer un SMS toutes les 10 minutes? Ou est-ce que je communique tout à l'autre? Et pourquoi? Et parfois, il y a des gens qui disent tout, qui ne se préservent pas un peu de jardin secret. Mais tout ça, c'est mille questions, hein, c'est intéressant. Hein. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est par rapport à la liberté. Aimer l'autre demande de s'aimer soi-même. Encore une fois, vous voyez, avant d'entrer dans le mariage, il faut d'abord faire le point sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a atteint une certaine maturité? Il y a des personnes qui sont très très immatures. Mais de nos jours, c'est rare de se marier à 20 ans. Et d'un autre côté, il y a des gens de 20 ans qui ont une maturité. Donc, aimer l'autre demande de s'aimer soi-même, mais en vérité, pas de l'orgueil. Et pour s'aimer, il est bon de savoir progressivement qui l'on est. Voilà. Quel est le sens de sa vie? Osons rechercher la vérité sur soi-même pour mieux aimer l'autre. Quels sont les domaines qui me passionnent? Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pas pu développer? Que vous avez peut-être développé dans votre métier, dans ce que vous faites tout seul, mais le couple va peut-être être aussi une attente chez vous pour que ça se développe. C'est une liste, un inventaire à la Prévert. Hein, mais tout se concentre sur la liberté et dans un deuxième temps, sur le don de soi. Mais alors du coup, le don, alors c'est un don libre. Je suis d'abord libre et je me donne, mais si je me donne, je ne me reprends pas. C'est là le vertige, le beau vertige du mariage. Alors, suis-je heureux? Travail, loisirs, vie professionnelle, comment cela se manifeste-t-il? Là, on parle toujours un peu de soi-même, hein, avant le couple. Hein, notre propre liberté, notre propre bonheur. Comment cela se manifeste-t-il? Quelle est ma propre définition du bonheur? Qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? C'est vraiment les questions fondamentales, philosophiques. Et lors de quelles circonstances ai-je été le plus touché? Par la beauté ou par la grandeur de la vie? Qu'est-ce que j'aime en moi? Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Vous voyez, c'est un bilan personnel avant le don. Ai-je confiance en moi ? Maturité aussi. Alors, quels sont les domaines où j'ai le moins confiance en moi ? Quel effet le mariage aura-t-il sur ces difficultés ? Comment est-ce que je me montre aux autres habituellement ? Est-ce que c'est un peu masque ou est-ce que c'est... On peut pas, on n'a pas tous le même tempérament hein, non plus. Alors, il ne faut pas prendre ces questions non plus au pied de la lettre et faire de la psychanalyse. Hein. Enfin, moi, vous avez... Je sais pas que je jette la pierre à la psychanalyse, mais parfois il faut pas non plus trop, faut être simple quoi dans ces questionnements. Ai-je de vrais amis avant d'avoir la grande amie ou le grand ami? Dans ma vie de célibataire, y a-t-il certains domaines dont il me semble important de me séparer avant de me donner? Mes parents et ma famille ont-ils eu une influence sur moi?
Je pense qu'effectivement, la précédente question sur se séparer quelque chose, c'est justement effectivement dans l'exercice de cette liberté.
Tout à fait.
C'est qu'on pose un choix, on choisit un chemin, c'est de vivre avec quelqu'un, tout au long de sa vie. Et ça veut dire que la responsabilité qu'on a par rapport à ce choix d'exercice libre et conscient, c'est de dire qu'on renonce à autre chose. On Bien renonce à, toutes les, à tous les autres chemins sur lesquels on pourrait s'engager. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a posé ce choix, le jour où on arrive, parce qu'on peut, y avoir des, on peut rencontrer des difficultés dans sa vie de couple, on peut avoir des épreuves à subir, c'est justement se rappeler ce premier choix qu'on a fait et de dire j'ai choisi, nous avons choisi d'emprunter ce chemin-là, c'est pas pour, dès que c'est possible, prendre une déviation ou reprendre quelque chose en se disant bah, oui, j'avais fait ce choix à l'époque, mais je change d'avis. Donc c'est quand même l'importance du choix que vous faites et. Je pense que c'est, vous en êtes conscient, c'est là pour ça, mais c'est vraiment de dire il y a quand même un renoncement à d'autres choses, c'est pas forcément un sacrifice, c'est pas battre sa coulpe et ça, mais c'est vraiment de dire voilà, je vais quand même dans une direction, mais ça impose de renoncer à d'autres chemins possibles.
D'autres chemins, mais en même temps, voyez-vous, justement, ce don n'est pas un anéantissement.
Sans être un anéantissement.
Donc, vous avez vos propres qualités ou comment dire, des préférences de vie qui seront compatibles avec le don mutuel et qu'il faudra garder. Il ne faut pas s'imaginer qu'il faut justement. Il faut, alors, sans être trop dans l'introspection, cette liberté avant le mariage. C'est faire le point sur sa maturité, ses vrais choix, ses vraies préférences. Et par contre, certaines choses qui sont vraiment propres à la vie seule, il va falloir bien comprendre qu'on ne peut plus les garder, en tout cas, comme ça. Et du coup, et aussi...
Peut-être que la façon de les accepter ou d'y repenser, c'est par le dialogue après avec l'autre qu'on peut avoir en disant... Bah, j'adore aller voir le foot avec mes copains. Et, bah, c'est un dialogue qu'on peut avoir en disant...
Moins souvent.
Moins souvent, ou des choses. Mais voilà, mais c'est de dire, c'est pas, le père disait, c'est pas effectivement un anéantissement, c'est pas de dire vraiment tout lâcher, mais c'est être conscient que bah, c'est par le dialogue qu'on avance et que ce qui pouvait être là où avant on prenait juste ses décisions seules, effectivement, il faut les considérer dans un cadre... Oui. Dans une vie de couple.
Et alors, question importante, c'est la relation avec mon père et ma mère. La relation va être transformée lorsqu'on... Donc, c'est un sujet dans des couples qui est classique, hein, mais il ne faut pas en faire un drame non plus. Mais on voit justement que ça fait vraiment partie des difficultés. J'ai vu des couples qui en font trop ou qui voient des toiles d'araignée comme des toiles de tente hein, c'est pas parce qu'il téléphone à sa mère une fois par semaine mais tous les jours c'est vrai que ça commence quelle est la relation avec mon père et ma mère durant ma jeunesse, quel rôle ont-ils joué et quel rôle ils jouent maintenant hein, qu'est-ce qui me paraît le plus essentiel à garder et à développer par rapport à mes parents? C'est des questions qu'il faut se poser avant le don total du mariage. Hein. Ça, c'est... Y a-t-il des modèles de couple que j'aimerais imiter? En quoi? Il y a des fusionnels, plus indépendants, ceci. Suis-je à l'aise dans ma famille, dans la famille de ma fiancée ou de mon fiancé? Ça c'est avant hein, qu'il faut se poser la question. Voilà. Mais certains se disent, oh ben nous on est fiancés depuis un certain temps, n'est-ce pas? Bon, c'est le concubinage, n'est-ce pas? Le mariage à l'essai. Mais justement, comprenez que si le bon Dieu nous dit qu'il valait mieux ne pas vivre ensemble avant de se donner totalement, c'est pour garder une certaine liberté, comment dire, par rapport à ce choix et par rapport à un recul sur notre situation avant de vivre ensemble, avant d'engager toutes ces relations. Alors pour ceux qui vivent ensemble depuis un certain temps, ils ont déjà vécu ça. Ils ont déjà vécu la relation avec leurs parents et la relation avec la belle famille future, n'est-ce pas? Mais sachez que vous-même, si vous êtes ici, c'est que vous sentez que quand vous allez faire une promesse, ça va être quand même différent. Et nous, on va vous dire, justement, c'est une alliance. Et c'est ce qui est beau dans le mariage, c'est à la vie, à la mort. Donc c'est vraiment, il n'y a plus de possibilité de se... Enfin, on renonce à une séparation de commun accord, par consentement mutuel, parce qu'on ne s'aime plus. Il y a un appel à toujours rénover son amour, à toujours redécouvrir l'autre. C'est vraiment... Le mariage est quelque chose d'un grand souffle. Oui. Ai-je le sentiment qu'il me faut épouser une famille entière? Est-ce que je souhaite couper tous les liens entre mon fiancé et sa famille? Je ne veux plus qu'il les voie. Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille de mon fiancé? Suis-je à l'aise avec les amis de mon fiancé ou de ma fiancée? Et ça aussi, j'ai vu que parfois, s'il y a un peu de jalousie, c'est ce que c'est le foot, voilà. Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique? Alors, c'est caricatural, le foot. Mais voilà, il faut être simplement attentif et il y a des choses beaucoup moins caricaturales.
Je déteste le foot.
Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique et d'être vrai? Ce qui fait que donc cette liberté, c'est un point qu'on fait avant d'avancer. Le don n'est pas un anéantissement. Le sacrifice, c'est un agrandissement. Quand Jésus se donne pour son épouse, c'est pas qu'il se tue. D'abord, il est tué. Et son sacrifice est un sacrifice d'amour qui fait voler en éclats la haine qui l'a tué. C'est quand on le tue, quand la haine le tue, la haine perd. La haine échoue. Parce que tuer l'amour est impossible. Donc vouloir tuer l'amour, c'est temporaire. Et nous, dans l'espérance de la vie éternelle, ceux qui ont voulu tuer, ils ont voulu tuer. Les familles sont dans la cruauté de la tristesse de l'absence de l'être aimé. Mais il y a l'espérance des retrouvailles. Ça, c'est... Quand il y a la vie éternelle, il y a les retrouvailles. Alors, quand ce qui est atroce, c'est un papa et une maman qui ont perdu un enfant de 25 ans, tué devant une brasserie, tout ça. Mais nous, on a l'espérance des retrouvailles. Hein. Alors, si nous, on a cette force de relation et de toujours renouer cette relation et ne jamais la perdre vraiment, parce que même si la mort nous sépare momentanément, on se retrouvera, eh bien, c'est la relation, c'est l'écoute. Donc, on est d'abord libre, on fait le point sur notre vie, et puis on va vers l'autre. Suis-je prêt à vraiment respecter l'autre? Et quand je vous parlais de pudeur, faites attention, il y a une question à un moment qui dit « Est-ce que je vais tout dire ?» Ben, pas forcément. Mais il faudra bien choisir, parce que l'autre, parfois, est exigeant. Il dit « Tu m'as pas tout dit, là. Est-ce que tu as fait ça, dans ton enfance et tout ?» Voilà. Bon. Est-ce que j'essaye de promouvoir la liberté aussi de l'autre? De découvrir et d'épanouir ses talents, de ne pas l'étouffer ou de ne pas le phagocyter. Ai-je pris conscience que je dois aider mon fiancé, ma fiancée, dans sa recherche d'une vie intérieure et spirituelle tout au long de sa vie? Vous voyez, que ça ne soit pas que la vie parisienne, ou si vous êtes à Paris ou ailleurs. Que vous ayez, vous voyez, quand le troisième commandement, quand on vous embête pour, vous êtes captif, on va vous embêter pendant quelques semaines pour vous dire, ah vous savez, écoutez la parole de Dieu le dimanche, du samedi soir au dimanche soir, rencontrez Jésus qui se donne et qui détruit la mort et qui fait jaillir la vie dans sa résurrection, la messe, voilà. Et des moments de calme, où on n'écoute pas la radio, on ne regarde pas son smartphone, on a éteint sa tablette et on est dans une église avec les autres. Ou alors découvrir aussi des moments de prière personnelle, c'est le carnet de route des fiancés. Hein, que je vous... Si vous lisez paisiblement un peu, si vous suivez un peu ce qui vous est proposé, si vous prenez au jeu, une heure par semaine. Dans notre couple, comment l'amour s'exprime-t-il le plus? Comment vous vous êtes rencontrés? Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel pour le bien de mon conjoint ou de notre couple? Ça, c'est, comment dire, on le développera plus tard. Hein. J'aurais dû supprimer cette question dans l'écoute et le mettre plus loin. Que signifie pour nous de nous engager à vie? Alors oui, on est libre, mais là, on reste libre puisqu'on a choisi d'être ensemble. Avons-nous déjà eu l'occasion de nous engager? Je ne sais pas, vous êtes en CDI, vous avez fait une promesse vis-à-vis dans une amitié, peut-être. Sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union? Quels moyens humains et divins voulons-nous choisir? Vous voyez, pour ceux qui sont, comment dire, dans un mari, où il y a des personnes qui sont foncièrement droites, qui ont des doutes, qui sont agnostiques ou même athées, qui sont fidèles, profondément fidèles. Sur quoi repose la vérité de notre amour? Et donc, pour cela, voyez-vous, c'est la communication dès maintenant. C'est ce que j'appelle se faire la cour. Alors vous allez me dire, il y en a qui mettent Pâques avant les rameaux et qui vivent ensemble. Bon, oui, mais si les mariages n'étaient pas arrangés, autrefois, on se faisait la cour, on se connaissait, on se fréquentait. Ouais. Alors ceux qui résistent à tout de suite emménager ensemble, eh ben, ils vont faire toutes les brasseries, tous les cinémas, tout machin. En n'ayant pas peur de fous qui veulent nous empêcher de vivre. Et vivez votre justement, faites-vous la cour, connaissez-vous. Est-ce que je sais écouter l'autre? Est-ce que j'ai parlé avec l'autre? Moi, je reçois des dossiers de mariage avec des gens qui sont tamouls ou qui sont Sri Lankais. Dit, ah oui, alors certains ils se connaissent, mais d'autres c'est des mariages arrangés, c'est leur culture. Hein. Des catholiques Sri Lankais, des catholiques tamouls, ah je l'ai vu trois fois, hein, par Skype. C'est vraiment libre, c'est vraiment. Est-ce que je sais écouter? Comment se manifeste cette écoute dans mon attitude et mon fiancé? Est-ce que l'un de nous parle trop? Imaginez si je m'étais marié. Au contraire, reste trop silencieux. Suis-je capable d'exprimer mes sentiments? Y a-t-il des questions que j'ai peur de poser? Quand je rencontre un obstacle dans la communication, quelle est ma réaction? Ça, c'est les fiançailles. Hein. Il faut se connaître un peu. Hein. On n'est pas dans les mariages arrangés. Hein. Il faut se faire la cour. C'est si rare de nos jours. Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec mon fiancé? Pourquoi? Quelle a été la dernière démarche de ma fiancée qui m'a aidé à me confier à lui? Y a-t-il des choses que je suis en droit de connaître pour être vrai dans ma relation? Est-ce que j'ai un regard positif? est-ce que je l'écoute, et que est-ce que je cherche à vraiment la comprendre, suis-je capable de percevoir si elle me dit vrai, même quand cela m'est désagréable. Vous voyez, ça c'est important quand on se fait la cour, hein, quand on se connaît. Là, il faut bien réfléchir, parce que si vous êtes... Vos premières disputes sont très très importantes. Vos premières incompréhensions sont très importantes, parce qu'elles vous permettent justement de les vaincre et d'entrer dans l'amour. Suis-je capable de me remettre en question? Et j'ai été critiqué. Elle m'a critiqué. Elle m'a dit que... Normalement, on a les yeux de chimène, donc tout ce que je dis est bien, tout ce qu'il fait est bien. Tout, il y a un problème. Comment ça, il y a un problème? Non, on est tous les deux, tout est en rose. S'il y a des choses, c'est merveilleux de les connaître avant. Est-ce que j'estime bien connaître l'autre dans sa différence, son tempérament? Quels sont ses centres d'intérêt? Est-ce que vous connaissez ses centres d'intérêt? Caractère? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Tranquillement. Hein. C'est pas... Son attitude face au jeu, dépenser de l'argent. Est-ce qu'il est dépensier? Bon, c'est des petites questions pour vous taquiner. Son humeur, son sens de l'humour. Suis-je mal à l'aise quand il est en société? Il rigole comme un dingue et tout, mais... Est-ce qu'il dépend trop de ses parents? Est-ce qu'il est satisfait? Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui? Qu'est-ce qui m'apporte de plus grand? Qu'est-ce qui me fait souffrir? C'est embêtant, hein, s'il y a des choses qui me font souffrir chez l'autre. Mais c'est le moment aussi d'en parler. Quoi. Voilà. Et du coup, vous exercez déjà dans les fiançailles, avant l'engagement du mariage, au pardon. Vous voyez? Donc des sujets où il y a eu un petit problème, il faut à ce moment-là essayer de... vous êtes deux adultes, deux matures, deux libres. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? C'est non seulement la liberté et la maturité, mais parce que vous allez devoir être fidèle à cette connaissance première mutuelle. Vous ne pouvez pas vous connaître tout de suite et avoir eu 20 ans. Vous dites, oui, mais parfois vous ne parlez pas au mariage des gens qui ont 20 ans de vie commune. Oui, mais alors on ne leur dit pas ça, quoi. Mais je ne pense pas que vous soyez... Oui, mais parfois, en général, on ne va pas les faire venir nécessairement dans des préparations plus classiques, quoi. Si, par exemple, j'ai préparé quelqu'un qui avait 60 ans et 58 ans et elle 40 ans. Vous allez me dire, vous avez bien réfléchi avant de préparer un couple qui a une différence d'âge, c'est pas le problème. Si on prend son temps, s'il y a une certaine responsabilité, c'est vrai, du prêtre. Mais, c'est pas votre cas. Donc vous allez avoir des années où vous vous lancez dans l'avenir. Et c'est le moment de se poser les questions qui ont été posées ici, parce que ça va continuer plus tard. Et c'est ce qu'on verra jeudi prochain. Mais donc, là, aujourd'hui, c'est avant l'engagement. Jeudi prochain, on discutera, on se posera la question, on anticipera un peu une vie commune dans la promesse mutuelle, pour toujours, enfin pour... Ici, on essaye d'être fiancé et d'être libre encore jusqu'au moment... Alors, oui, mais on a réservé la salle, donc c'est pas le moment, on va pas... y a des gens parfois qui réfléchissent tellement pendant la préparation au mariage qu'ils disent, mais finalement, on n'est pas prêt. S'il vous plaît, ne vous faites pas de ce coup-là. Hein. Non, ça doit être positif. Pour vous, c'est le moment de vous... on vous interroge sur votre liberté, votre maturité, votre connaissance mutuelle. Voilà. Donc je vous demande de sérieusement vous poser ces questions, tranquillement, que vous allez retrouver dans le carnet de route, hein, à d'autres passages, Mais ce carnet de route, j'aimerais que vous puissiez le... Moi, il y a des prêtres qui m'ont dit, après la session de... Comment dire à la paroisse, on leur demande de jouer le jeu encore, quoi. Il faut qu'ils se préparent aussi quand l'impulsion qu'on a donnée... On peut pas se réunir sur 6 mois. Hein, enfin, on pourrait éventuellement, mais c'est pas les sessions de mariage. Normalement, c'est sur 2 mois. Il y a même des sessions qui sont ultra courtes. C'est comme le code de la route, vous voyez, ou le permis de conduire. Vous avez des, je suis à Serres. C'est samedi dimanche, quoi. Vous faites le code et la conduite sur 2 jours. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hein, à la fin, je vous demanderai, vous avez page 8, de déjà réfléchir à essayer de faire une petite retraite quand on se quittera en décembre, avant votre mariage. Alors, il y a différents styles, hein, les chanoines de la grâce, c'est plus classique, les foyers de charité, c'est vraiment très universel. C'est un peu mystique. Les jésuites, c'est plus intellectuel, mais quoi, c'est pas. Voilà. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, je m'arrête. Hein, et puis, donc, vous allez un peu parler de votre liberté, de votre connaissance mutuelle.